France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Juan Carlos, tout contre Franco. Épisode 2, explosive couronne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois à la télévision le roi Felipe d'Espagne, ou alors Juan Carlos quand il est filmé chez lui à Abu Dhabi, la première idée qui me vient à l'esprit n'est pas « Tiens, il y a un descendant de Louis XIV qui passe à la télé ». J'ai même un peu de mal à connecter les deux types d'images, par exemple celle du roi Soleil d'un côté et celle de Felipe qui fait du ski avec Laetitia et leurs enfants de l'autre. De la même façon, quand je suis passé un jour devant la Villa Giralda, cette maison portugaise où Juan Carlos a en partie grandi, je ne me suis pas dit « Tiens, ça ressemble à Versailles ici ». Non, pas du tout. La Giralda, ça n'est absolument pas Versailles, ni le Palais Royal de Madrid et ses 3418 pièces. C'est juste une grosse maison avec une piscine, et même pas la plus grande du quartier, j'ai vérifié sur Google Earth. Et pourtant, Juan Carlos est bien l'héritier de François Ier, Catherine de Médicis, Henri IV, Louis XIV, enfin tous ces gens-là. Et psychologiquement, ça n'est pas tout à fait sans conséquence.
Âgé de 31 ans, Juan Carlos descend en ligne directe de Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, le roi Soleil. Après 45 ans d'un règne fallot, Philippe V laissa le trône à ses fils, Ferdinand VI et Charles III. En 1808, Charles IV capitula devant Napoléon. Les Bourbons d'Espagne revinrent avec Ferdinand VII, d'abord nommé le désiré, puis le décevant. Sa fille Isabelle fut déposée en 1868, puis l'armée rappela sur le trône son fils Alphonse XII. Et le fils d'Alphonse XII, que voici, Alphonse XIII, fut un prince amateur de sport et de jolies choses. Il fut renversé par la Révolution de 1931, abdiquant en faveur de son fils puiné, Juan, comte de Barcelone, le père de Juan Carlos.
Bon, si vous n'avez pas tout retenu dans l'ordre, ça n'est pas grave. L'important est de se souvenir qu'il est difficile de trouver, en Europe, de lignée royale plus prestigieuse que celle-là. Évidemment, appartenir à ce genre de famille influe un peu sur votre état d'esprit. Le fait de descendre de Louis XIV, et aussi le fait qu'on vous le répète sans cesse, constitue une certaine incitation à perpétuer la monarchie, voire à la restaurer, quand votre père est un roi sans couronne, ce qui est le cas de Juan Carlos. À mon avis, il est donc important de garder cet élément psychologique en tête pour comprendre le parcours et les choix du futur roi.
Te llamarás Juan, por tu padre,
dice el abuelo.
Carlos y Alfonso, por tus abuelos. Víctor, por la pesada de tu abuela. Y María, por ti.
La royauté espagnole n'a jamais été formellement bannie par Franco. Et pourtant, le destin de cette monarchie a dépendu de la volonté du caudillo. Pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord se demander comment la famille royale a pu se retrouver dans cette situation d'avoir perdu son trône sans l'avoir vraiment perdu. C'est ce que nous allons voir maintenant dans ce deuxième épisode, en remontant un peu la généalogie.
Juan Carlos, Alfonso, Víctor, María de Borbón y Borbón de Sicilia. Suena precioso.
Stéphane Michonneau, vous êtes historien, auteur de la biographie intitulée « Franco, le temps et la légende » aux éditions Flammarion. Est-ce que vous diriez que pour Juan Carlos, rétablir la monarchie va être vécu comme une mission, la mission suprême, la seule, l'unique? Parce que quand on est élevé dans l'idée qu'on est un monarque de droit divin, on peut imaginer que ça oriente un petit peu vos actions.
Oui, je crois, franchement, au risque de dire la palissade, Juan Carlos est un monarchiste. Heureusement d'ailleurs, pour lui. Donc son objectif numéro un, c'est d'essayer de rétablir la monarchie, enfin ça c'est le choix de Franco, et puis surtout de la stabiliser et de faire en sorte qu'elle soit admise par les Espagnols, ce qui n'est pas une évidence. Et la condition sine qua non, c'est que cette monarchie admette évidemment la démocratie.
Juan Carlos grandit donc dans une atmosphère très particulière, qu'on a probablement de la peine à se représenter. Il est l'héritier d'une famille dont les membres sont censés être d'abord les représentants d'une institution avant d'être les représentants d'eux-mêmes. Une famille dont l'aura génère ses dévots fanatiques comme ses plus fervents ennemis. Une famille sur laquelle, accessoirement, on jette régulièrement des bombes. Et c'est là qu'il faut s'intéresser au grand-père de Juan Carlos, Alphonse XIII.
Je vous présente M. René Falscheid, qui se trouvait à Madrid en 1906 et qui a assisté à l'attentat qui a eu lieu au moment du défilé du cortège royal du mariage de la princesse Victoria de Battenberg avec le roi Alphonse XIII. Et il va nous raconter ce souvenir dramatique.
L'attentat avait eu lieu juste en face du 88, c'est-à-dire de la pension de famille où je devais aller. Et cette maison, c'était l'hôtel de la duchesse de Tolosa. Au balcon, on voyait du sang qui coulait, et c'était la duchesse de Tolosa qui avait été décapitée. À côté d'elle, un général également avait eu la tête emportée. Il y avait la rue qui était jonchée de débris de toutes sortes, il y avait du sang partout. C'est une chance que je ne sois pas allé à la fenêtre là-haut, parce que à la pension de famille, un des pensionnaires, un nommé Martinez, un étudiant des mines, avait eu la tête emportée.
Jusqu'au cinquième étage.
Jusqu'au cinquième étage. On a retrouvé des débris d'un militaire dans un balcon assez loin de la maison. On a retrouvé le pompon d'un ross, le ross c'est le képi, le pompon d'un ross dans un autre balcon à une grande distance. C'est surtout le service d'ordre qui a eu le plus de victimes. Et la bombe est arrivée, elle a explosé juste au ras du toit du carrosse.
Le roi Alphonse XIII était habitué aux attentats. Mais, comme on vient de l'entendre, celui qu'il a eu à subir le 31 mai 1906, jour même de son mariage, avait été particulièrement sanglant. Un anarchiste, Matteo Morral, avait lancé une bombe sur le cortège depuis un balcon. L'attaque avait causé entre 23 et 28 morts selon les sources et plus d'une centaine de blessés. L'année précédant ce mariage, celui au cours duquel lui et sa future femme avaient donc reçu une bombe cachée dans un bouquet de fleurs, Alphonse XIII avait été attaqué à Paris, à l'angle de la rue de Rivoli et de la rue de Rohan. On en trouve un témoignage dans la salle des archives, avec ce document qui date du 1er janvier 1949.
L'attentat contre Alphonse XIII. Bien, lors de sa visite à Paris, il portait un casque à pointe au grand scandale des badauds, qui avait imaginé qu'Alphonse XIII était arrivé vêtu d'un uniforme prussien, à la mode de 1870. Mais l'opinion a été retournée en un instant contre ce roi qui était pourtant si francophile et qui l'avait prouvé pendant la guerre de 14-18. Vous vous souvenez du mot qu'on lui prêtait en Espagne, « Il n'y a que moi et les clochards qui soyons partisans des alliés ». Eh bien, ce jour-là, j'étais donc sur le quai d'Orsay, à l'angle du ministère des Affaires étrangères. Et peu avant l'arrivée du cortège officiel, le bruit court que le roi avait été victime d'un attentat. Une bombe avait été lancée contre sa voiture par un anarchiste. Le sentiment public qui avait été fort choqué par le port du casque à pointe, le sentiment public fut retourné en un instant et le roi passa au milieu d'acclamations délirantes. J'ai compris ce jour-là à quoi tenait la popularité.
Stéphane Michonneau, que vous inspirent ces archives ?
Bah, oui, effectivement, c'est un couronné en 1902, à 16 ans, c'est un très jeune prince qui n'a jamais connu son père, qui n'est pas tout à fait prêt à l'exercice de ses fonctions et qui essuie... de très nombreux attentats anarchistes, effectivement. Je crois que c'est absolument capital, parce que c'est un roi qui très rapidement va prendre le parti de la conservation, va s'aligner sur les militaires. C'est intéressant de le voir dans le témoignage représenté en uniforme, parce qu'il se présente toujours en uniforme. Donc c'est vraiment le roi sergent, d'une certaine manière. Et c'est ainsi qu'il conçoit la monarchie, une monarchie autoritaire, libéral, mais absolument pas démocratique, et de plus en plus aligné sur la parole des militaires.
Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant d'attentats contre la monarchie espagnole à ce moment-là ?
Alors, les anarchistes sont extrêmement puissants, en particulier à Barcelone, naturellement. On a en Espagne une classe ouvrière qui est relativement peu nombreuse par rapport aux autres pays européens, mais extrêmement politisée, en particulier sous influence anarchiste. Et cet anarchisme a prôné dans les années 1890, comme en France, une forme d'action directe, qui est celle de l'attentat terroriste, pour essayer de faire accoucher la révolution. Et cela a donné lieu jusqu'en 1909-1910 à des vagues de répression policière extrêmement violentes, en particulier à l'occasion de la fameuse semaine tragique à Barcelone en 1909. Et les années 1909-1910 vont clore ce cycle, puisque cette stratégie est sans résultat efficace. Et on sait que l'anarchie, à cette époque-là, à partir des années 10, se tourne plutôt vers l'action syndicale.
C'est aussi peut-être le signe d'une monarchie qui est de plus en plus contestée, et pour diverses raisons, à ce moment-là en Espagne, Stéphane Michonneau.
Oui, c'est une monarchie qui se veut libérale, mais qui est autoritaire. Il y a toute l'apparence d'un jeu démocratique avec des élections régulières, etc. Mais en fait, les élections sont totalement contrôlées. Il n'y a aucune vérité du suffrage. Et une grande partie de la société espagnole, en particulier les sociétés urbaines à Madrid, à Barcelone, s'érige contre ce jeu politique qui est totalement faussé et qui ne donne pas lieu, évidemment, à l'expression des opinions publiques. Donc il y a là un blocage extrêmement profond qui va miner la monarchie.
Et puis sur le plan extérieur, il faut se rappeler que Alphonse XIII, c'est le roi sous le règne duquel l'Espagne a perdu Cuba dans la guerre contre les États-Unis à la fin du XIXe siècle. Et puis aussi, il y a les guerres du Rif, qui sont donc ces guerres menées par l'Espagne au Maroc et qui sont particulièrement sanglantes.
Ça, c'est très important. 1898, c'est la perte des derniers lambeaux d'empire. Hein, Cuba, Philippines, Puerto Rico, désormais sous contrôle des États-Unis. C'est vécu par les élites espagnoles comme une humiliation. Hein, on utilise le mot de désastre avec un D majuscule. Et de là naissent toutes sortes de courants intellectuels et politiques qui visent à revigorer l'Espagne, puisque l'Espagne serait atteinte d'une sorte de maladie, d'un déclin inexorable à une époque où les autres puissances européennes constituent des empires coloniaux. L'Espagne perd tout. Et donc, contre ce déclin séculaire, il faut réagir. C'est ce qu'on appelle le régénérationnisme, qui a donné lieu à beaucoup de courants politiques. Le catalanisme, par exemple, qui naît à cette époque, est une forme de régénérationnisme. Et puis, l'africanisme, c'est-à-dire la volonté de conquérir le Maroc et de retrouver l'empire, mais un empire africain, cette fois-ci, fait partie de ces réactions au désastre.
Avec des batailles désastreuses comme celle de Hanoual, dirigée, lancée par Alphonse XIII, et dans laquelle un grand nombre d'Espagnols vont perdre la vie.
Ah ben, les guerres marocaines sont extrêmement difficiles, extrêmement brutales, même si elles ont... L'armée espagnole a souvent l'appui de l'armée française. Elles sont extrêmement brutales dans les années 10, naturellement, et puis alors plus encore dans les années 20 avec la guerre du Rif et Abdelkrim et ce fameux désastre d'Hanoual qui a été une humiliation nationale. C'est presque le rejet du désastre d'une certaine manière et une humiliation militaire absolument énorme.
Mais qui donc était ce roi qui allait bientôt devoir partir en exil ? Alphonse XIII n'avait jamais connu son père, qui était mort jeune de la tuberculose durant la grossesse de sa femme. Il est donc roi dès sa naissance. Mais c'est seulement à 16 ans qu'il prend effectivement le pouvoir, après la régence assurée par sa mère. Son mariage avec la princesse Victoria de Battenberg donne naissance à 7 enfants, dont 6 ont survécu. Cette union est présentée comme un mariage d'amour, pourtant ils se séparent après l'exil. Alphonse était un coureur, un point pour elle. De son côté, il n'avait pas pardonné à sa femme d'avoir oublié de préciser, au moment de leur mariage, qu'elle était porteuse d'une maladie héréditaire, l'hémophilie. Or, cette maladie a causé la mort, à l'âge de 31 ans, de l'aîné du couple royal. Leur plus jeune fils, Gonzalo, a également succombé des suites de cette maladie à l'âge de 19 ans. Jacques, le deuxième fils, est lui devenu sourd et muet, mais cette fois à la suite d'une otite mal soignée dans son enfance, il est écarté de la succession. Reste Don Juan, le père de Juan Carlos. Sous le règne d'Alphonse XIII, politiquement, l'instabilité domine, nous l'avons vu. Les mouvements anarchistes se développent, des revendications autonomistes se renforcent, les antagonismes grandissent entre les forces catholiques et laïques. C'est dans ce contexte tendu pour la monarchie que le général Miguel Primo de Rivera, alors capitaine général en Catalogne, prend le pouvoir par un coup d'État à Barcelone le 13 septembre 1923. Il promet la fin des violences, la remise en ordre du pays, des victoires militaires et une modernisation autoritaire du régime. On écoute sa voix en archive.
L'Union patriótica no ha hecho política porque es por su voluntad esencialmente apolítica.
Stéphane Michonneau, qui est Miguel Primo de Rivera et comment expliquer la réussite de son coup d'État en 1923?
Ah ben, ce coup d'État fonctionne parce que le roi Alphonse XIII le veut. C'est absolument un coup d'État
commandé. Vous diriez jusque-là, il le veut.
C'est le roi qui décide.
Alors en quoi Primo de Rivera serait-il, dans l'esprit d'Alphonse XIII, l'homme qu'il faut pour réasseoir, j'imagine, le pouvoir de la monarchie?
C'est la vieille tradition de l'intervention des militaires dans la vie politique espagnole, une très très vieille tradition naturellement. Primo Rivera s'intitule lui-même le chirurgien de fer, donc l'homme qui, par la force et par le pouvoir militaire, pourra stabiliser la situation. Donc une monarchie qui s'impose par la force et par le militaire.
Quels sont les liens entre Alphonse XIII et le jeune militaire Franco, qui est à ce moment-là une figure émergente parmi d'autres ?
D'excellentes relations entre Franco et Alphonse XIII. Ils sont tout à fait amis. Franco a fréquenté très tôt les cercles de la couronne et de la cour. La relation est même très franche et Alphonse XIII a souvent commenté cette amitié. Alors ensuite, évidemment, il a aussi commenté la trahison dont il a été l'objet, puisque lorsque Franco prend le pouvoir, il refuse de réinstaurer la monarchie. Et Alphonse XIII, en exil, s'est senti naturellement trahi par cette amitié. Mais les relations sont excellentes.
Donc, on a à la fois Primo de Rivera et Alphonse XIII qui font monter un petit peu ce jeune général Franco et qui le mettent en avant.
Oui, parce que c'est un général africaniste. Il est au Maroc, il est à la tête de la fameuse Légion étrangère qui a été fondée en 1920, et qui est peut-être le corps le plus puissant de l'armée espagnole coloniale. Et il a joué son rôle important pendant la guerre du Rif, peut-être pas aussi décisif que Franco a voulu le dire ensuite, et tous les historiens qui l'accompagnaient, mais enfin un rôle tout de même relativement important, en particulier lors de la grande bataille d'Alhucemas en 1926. Donc voilà, évidemment, ce rôle militaire permet à Franco une ascension assez rapide, puisqu'en 1926, il est nommé au généralat, et on dit déjà à l'époque qu'il est le plus jeune général d'Europe.
Est-ce que vous avez le sentiment que Primo de Rivera constitue une inspiration, un modèle pour Franco ?
Je n'en suis pas certain. Pour la raison suivante, c'est que finalement Primo de Rivera va abandonner le pouvoir en 1930 sur demande du roi. Et c'était un exemple que Franco citait toujours. Je ne ferai jamais comme lui, je ne lâcherai jamais le pouvoir, je ne partirai jamais, même si une autorité supérieure me le demandait. Il n'y en avait pas, donc c'était simple. Donc c'est plutôt un contre-modèle.
Mais je pensais en termes de coercition et sur voilà, le rapport politique finalement au peuple espagnol. Peut-être alors, que là, il y a une inspiration.
Alors en termes de coercition, cette espèce d'évidence selon laquelle ce sont les militaires qui doivent diriger la nation lorsque le pays est en danger, et cette conviction selon laquelle la vie parlementaire et les politiques sont néfastes et que seuls les militaires savent conduire le pays. Ça, bien entendu.
Ay, ¿quién podrá sanarme?
Après un peu plus de 6 années de pouvoir, le moment Primo de Rivera semble révolu. Sa politique est un échec, l'armée ne le soutient plus, la rue est contre lui. Il demande le soutien d'Alphonse XIII, mais le roi le lui refuse. Contraint de s'en aller, Primo de Rivera quitte le pays. Il meurt à Paris 2 mois plus tard. Mais Alphonse XIII est profondément assimilé à la dictature. Dans l'opinion, les dégâts sont irréparables. Stéphane Michonneau, on se rend compte en regardant de plus près le parcours d'Alphonse XIII qu'au fond, la famille royale est très complaisante avec les dictateurs quand cela l'arrange pour rester au pouvoir. C'est intéressant quand on a en tête ce qui va se passer ensuite, les rapports entre Juan Carlos et Franco. Est-ce que vous diriez qu'il y a une tradition, au fond, de proximité intellectuelle entre la dictature, en tout cas le pouvoir très très fort, et la famille royale ?
Au XXe siècle, oui, sans doute. Et l'obsession de Juan Carlos, ça sera précisément d'éviter l'erreur de son grand-père, c'est-à-dire de lier la monarchie à la dictature, alors que la monarchie de Juan Carlos est née de la dictature, il s'efforcera toujours d'essayer de dissocier ce couple pour faire accepter la monarchie par les Espagnols.
Donc c'était quelqu'un qui connaissait bien son histoire familiale et qu'il avait probablement étudié, Juan Carlos.
Absolument. Mais il est considéré que ses expériences, aussi bien celles de son grand-père que celles de son père, étaient plutôt contre-productives. Et il a mené sa propre stratégie.
Mais ça signifie aussi qu'il a été élevé dans ce bain-là, dans cette atmosphère-là, et c'est difficile de se défaire de son éducation. Et quand on a eu un grand-père qui a été aussi finalement proche d'un pouvoir dictatorial, quitte même à le mettre en place, comme ça a été le cas, vous nous l'avez dit, avec Primo de Rivera, ça doit être extrêmement compliqué de se défaire de cette hérédité.
Oui, c'est une véritable révolution, parce que cette monarchie espagnole n'a jamais porté un horizon d'émancipation politique et démocratique. Donc finalement, ces assises populaires ne sont pas si solides que cela. On n'est pas du tout dans le cas du Royaume-Uni où il y aurait une identification de la monarchie et de la nation, par exemple. Mmh. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, les monarques espagnols ont été renversés plusieurs fois déjà. Alors c'est vieux, en 1868, mais enfin, malgré tout, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la conception que les Espagnols ont de la monarchie est contractualiste. Elle est contractuelle, c'est-à-dire que le roi n'est au pouvoir que si le peuple veut bien. Et c'est même théorisé. Alors on est très très loin de l'absolutisme à la française. Hein. Et donc si le pacte entre le peuple et le roi est brisé, comme en 1931, eh bien le roi s'en va. Et je crois que les monarques espagnols sont très conscients de cette forme de fragilité.
Alors comment l'Espagne passe-t-elle de la dictature de Primo de Rivera à la République un petit peu plus tard ?
Alors, comme vous l'avez dit, Primo de Rivera s'en va en 30. Ensuite, il y a un autre pouvoir militaire du général Berenguer qui est un petit peu fantoche et qui ne tient pas très très longtemps, qui organise des élections municipales. Et ces élections municipales sont, de manière relativement écrasante, surtout dans les grandes villes, gagnées par les républicains le 14 avril 1931. Et cela est vécu comme une délégitimation du pouvoir royal. Et le roi, deux jours plus tard, part en exil. Il aurait pu rester au pouvoir, ça n'était que des élections municipales, somme toute. Elles n'engageaient pas l'avenir du régime. Mais en vérité, les républicains, eux, là, tout de suite, ont pris de l'ascendant et ont proclamé rapidement, dès le 14 avril, la proclamation de la Seconde République espagnole.
Mais il aurait pu rester sur le territoire espagnol, ou est-ce qu'il craignait pour sa vie ?
Il aurait pu. Non, je ne pense pas qu'il craignait pour sa vie, mais en vérité, il était complètement délégitimé. Il n'avait vraiment plus aucun soutien social ni politique.
Malgré tout, il reste roi. Il n'a pas abdiqué.
Ah, il n'a pas abdiqué. Il reste le porteur en titre, naturellement. Mais enfin bon, il reste roi d'une monarchie qui n'existe plus.
Alphonse XIII a bien sûr un peu disparu de nos mémoires, puisqu'il est mort il y a déjà plus de 80 ans, lors de son exil à Rome. Preuve qu'il avait néanmoins marqué les esprits, France Inter lui avait consacré un numéro de son émission Tribune de l'Histoire, qui consistait en une dramatique suivie d'un entretien. Nous sommes le 3 mars 1971.
Vous le voyez, messieurs, ma main est aussi ferme que ma voix. Je partirai ce soir en voiture. Quant à la reine, elle quittera Madrid demain par le train royal. Je la retrouverai à Paris.
Mais c'est une folie, il ne peut pas s'agir d'application.
Et que se passe-t-il donc ? C'est le général Cavalcanti ici.
Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ? Je suis prêt à résister avec les troupes fidèles. Mais non.
Eh bien, allez chercher le général Cavalcanti.
Bien, sire.
Stéphane Michonneau, que vous inspire cette archive ou ce court extrait de dramatique qu'on vient d'entendre ?
Oui, c'est intéressant, c'est surtout intéressant pour les cris qu'on entend derrière, parce qu'en fait, il est vrai que les militaires ne pardonnent pas à Alphonse XIII d'avoir lâché la couronne de manière aussi rapide. Et ça, c'est une chose que Franco lui reprochera énormément, puisque finalement, c'est ce départ précipité qui entraîne l'avènement d'une république que les militaires ne souhaitent absolument pas venir et qu'ils vont combattre naturellement jusqu'à sa fin.
Est-ce que vous diriez a priori que Alphonse XIII était anti-démocrate, c'est-à-dire, au fond, on pourrait imaginer que ce qui l'intéressait, lui, c'était de perpétuer la monarchie et qu'il aurait pu la perpétuer dans le cadre d'une démocratie, d'une monarchie constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel ?
C'est une monarchie constitutionnelle, mais le virage démocratique aurait dû être pris beaucoup plus tôt, dans les années 1900-1910, au moins.
Là, c'était trop tard, la famille royale s'est accrochée trop longtemps au pouvoir.
Puis les Espagnols, surtout, ne veulent plus de cette monarchie qui n'a donné aucune promesse démocratique. Et l'idée de démocratie est profondément ancrée dans l'idée républicaine.
José Luis de Villalonga était un membre de la haute noblesse espagnole. En cela, il était proche de la famille royale.
Il avait écrit un livre sur l'avènement de la Deuxième République et c'est pour en parler qu'il avait été invité par Pierre Lost dans son émission Une heure avec, le 14 juin 1967.
Votre roman se situe avant puis au cœur du drame de la Révolution espagnole. Et avec un humour d'une qualité très exceptionnelle, dans votre livre, la réalité et la fiction s'entremêlent. J'ai noté par exemple le moment vint où Don Miguel Primo de Rivera, mollement sommé par le monarque, prit les rênes de l'Espagne qu'il gouverna pendant 6 ans avec la maladresse débonnaire d'un cavalier venu de l'infanterie.
Oui. Alphonse XIII était très ami de ma grand-mère. Il l'écoutait beaucoup parce que c'était justement une femme qui, de son côté, n'était pas du tout épatée par ce monsieur qu'il appelait le plus haut fonctionnaire de l'État, mais pas plus, car elle considérait les Bourbons un peu comme des nouveaux riches comparés à elle-même. Et, enfin, pas à des nouveaux riches, mais à des parvenus, quand même. Et je me rappelle que la première fois que j'ai vu le roi, je devais avoir 10-12 ans, et il m'a parlé très très longuement. Il aimait les enfants. Et il parlait avec un enfant comme avec un homme, comme ça. Et alors il m'a pris comme ça, m'a serré contre lui. Et la première chose que j'ai sentie, c'était une odeur très forte de tabac. Et quand il parlait, il avait 2 ou 3 dents gâtées par la nicotine, par tout ça. Et j'étais très frappé de voir qu'un roi pouvait avoir des dents en mauvais état, comme tout le monde. Et ce jour-là, je crois que le mythe de la monarchie est comme fêlé.
Stéphane Michonneau, votre regard sur cet archive qu'on vient d'écouter ensemble.
Oh, c'est un portrait un petit peu dur tout de même, mais oui, c'est un personnage assez falot. C'est pas un très grand homme politique, Alphonse XIII, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est baladé et sous influence d'une certaine manière, en particulier des militaires. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est cette vieille rengaine des Bourbons qui sont finalement relativement illégitimes au regard de la très vieille aristocratie espagnole. Hein. Les grands d'Espagne peuvent ne pas se découvrir devant le roi. Ils sont les seuls autorisés à le faire parce qu'ils ont des noblesses infiniment plus anciennes que celles de ces Bourbons arrivés presque accidentellement au pouvoir en 1700.
Donc on en arrive au moment de la République qui va ensuite donner sur la guerre civile. Quelles ont été les mesures rapidement prises par les Républicains au pouvoir, Stéphane Michonneau ?
Ah, elles sont innombrables. C'est d'abord des grandes mesures de démocratisation politique, avec le vote des Espagnols, des femmes, dès 1931. L'abolition de toutes les lois de censure, l'affirmation de toutes les libertés démocratiques fondamentales. Et puis, des réformes structurelles très très importantes. Réforme de l'armée, par exemple. Réforme des relations entre l'État et l'Église, qui va plutôt vers la voie d'une séparation. Pas tout à fait, mais... Et puis surtout les grandes lois agraires qui visent à redistribuer une partie des terres au profit des nécessiteux. Toutes ces lois n'ont pas abouti, loin de là. Il y a eu des très fortes résistances du côté des catholiques, du côté de l'armée espagnole et du côté des grands propriétaires, le bloc de pouvoir de la monarchie.
En février 1936, les forces de gauche du Front populaire remportent sur le fil les nouvelles élections législatives. Pour un certain nombre de personnes au sein de la droite monarchiste et nationaliste, cet état de fait est inacceptable, un coup d'État se prépare dans leur rang. Le 13 juillet 1936, un homme politique monarchiste de premier plan, José Calvo Sotelo, est assassiné par un activiste de gauche après une suite d'attentats et d'assassinats dans les deux camps. C'est le prétexte utilisé par les nationalistes pour lancer le pronunciamento des 17 et 18 juillet 1936. Mais ce coup, qui aurait dû faire tomber rapidement la République, ne fonctionne pas comme prévu. La résistance s'organise et l'affrontement entre les camps signe le début de la guerre civile espagnole. Au moment du coup, Franco est alors un général important de l'armée, mais pas son leader. Il n'est pas la figure dominante de l'insurrection, ni même son instigateur. Et pourtant, c'est lui qui va devenir le chef du camp nationaliste durant la guerre civile. Mais qui donc est ce général qui s'apprête à régner sur l'Espagne durant 36 années? Et quelles sont ses idées concernant la monarchie? C'est ce que nous allons voir au cours du prochain épisode. C'était Juan Carlos, Tout contre Franco, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Nathalie Salles. Attachée de production, Lily Corner et Fanny Petit. Prise de son, Delphine Baudet. Mixage, Emmanuel Armin. Documentation INA, Inès Barja. Documentation musicale, Antoine Villose.